Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
La Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
It's fashion art.
Yes. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know?
That's all.
On reçoit aujourd'hui Charlotte Cochet-Terrasson, créative directeur de Marie Claire. Avec elle, on retracera son parcours, ses débuts en agence, son choix de s'établir en indépendante, jusqu'à son arrivée dans la presse spécialisée féminine, où elle œuvre avec beaucoup de bienveillance et l'envie de faire bouger les lignes.
Bonjour Charlotte, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bonjour.
Comment tu vas ?
On est super contente de t'avoir avec nous.
Merci, je suis très contente d'être là.
Comment tu vas ?
Très bien.
Elle a bravé la pluie du moment pour venir nous voir, Charlotte, donc on est grave contents.
Et surtout, elle a évité l'ouverture des terrasses, parce que là, normalement, comme tout Parisien
mais
qui
grave.
Se respecte, tu devrais être en terrasse.
Exactement, c'est mais sur la route, j'étais assez surprise.
Il y a du monde, hein.
Pas tant.
Tu trouves ? Moi, j'ai vu plein de monde. Après, je suis passée peut-être à un moment de la pause-déj, donc c'était
possible.
Peut-être un peu plus normal.
Moi, j'ai vu que des stories, mais toutes les stories, ça bravait le mauvais temps.
Ouais.
De ouf. De ouf, les verres d'eau qui sont remplis de pluie là, non merci. on commence toujours par la question classique du parcours. Tu veux bien nous raconter un petit peu
ouais.
D'où tu viens, qu'est-ce que tu as eu comme parcours scolaire pour commencer, puis ensuite professionnel.
Mm-hmm.
Et puis nous ensuite on rebondit.
Très bien. Donc je suis née à Paris.
Yes.
J'ai grandi à Paris.
Ok, 100% parisienne.
Une vraie parisienne, mais avec beaucoup d'excursions à la campagne. Je suis plus proche de la terre que de la ville, mais j'ai toujours grandi en ville.
Ok.
Donc voilà, j'ai fait mes études à Paris.
Ouais.
Et j'ai commencé à travailler dans la publicité.
Ok.
Par hasard.
T'as fait quoi comme style d'études ?
J'étais à l'ECV, c'est l'école de communication visuelle, donc c'est une école très large qui forme les créatifs. Il y a plein de spécialisations qu'on peut faire. Moi, j'aimais bien l'édition, mais le hasard a fait qu'on m'a proposé un poste dans une agence de pub et j'ai dit ok.
Okay.
C'était chez EuroRSCGCNO, donc chez Havas,
ouais.
Agence institutionnelle.
Tu commences quoi ? Tu fais des premiers stages ou c'est direct
non,
un poste ?
C'est direct un poste d'assistant DA.
Ok.
Ouais, et puis après DA, et j'ai rencontré là-bas en fait des gens qui ont été très très importants pour la suite de ma carrière.
Ok.
Et que je vois toujours aujourd'hui, qui sont toujours extrêmement proches de moi.
D'accord.
Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans le travail de nouer, de tisser des liens plus que professionnels.
Mm-hmm.
Et de grandir avec les gens, c'est très important pour moi.
Ok.
Ouais, on dit souvent que dans une carrière professionnelle, c'est 50% le travail et 50% le réseau que tu te crées en fait.
Ouais, après, moi je suis pas très...
Je pense que ça dépasse le réseau là, ce que tu as l'air de dire.
Voilà.
C'est vraiment que tu as noué des amitiés.
Non, pas réseau dans le sens négatif, hein. Ça peut être le réseau, c'est les
réseau,
gens avec qui tu travailles, que tu côtoies, avec qui tu te lis d'amitié. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent quand tu entends des postes, au-delà de ceux qui sont pris parce que c'est le ou la fille de quelqu'un, t'entends, bah oui, c'est aussi ça, pour trouver un taf, une opportunité, bah on pense... En premier lieu aux personnes qui sont les plus proches de nous ou avec qui on a déjà travaillé.
C'est vrai,
ouais,
c'est vrai, parce que ce poste, de toute façon, il m'a été proposé par quelqu'un avec qui j'étais à l'école.
Ouais.
On n'était pas forcément amis, mais on avait déjà travaillé ensemble, on s'estimait.
T'étais forte à l'école ?
Ouais.
Comment ils demandent ça, genre, t'avais des bonnes notes?
Ben non, ben c'est le cancre. Moi, j'étais un cancre, donc je veux savoir, ça m'intéresse.
Ben moi, j'étais pas... J'ai une scolarité assez facile. J'étais au conservatoire, jouais du piano, un peu petite fille modèle.
À la première de la classe, ouais. Quoi.
Un peu, et ensuite, j'ai commencé à apprendre le chinois à l'INALCO.
Ah ouais.
Ouais. Et après j'ai voyagé.
Ah ouais,
voyagé.
Tu rigoles pas du tout en fait.
Non.
Ouais, mais je suis pas, j'ai pas vraiment poursuivi. Rapidement, j'ai voyagé aux États-Unis, au Canada, et ce poste est venu à moi quand j'étais aux États-Unis, donc je suis rentrée en France pour le prendre.
T'étais partie aux États-Unis pour bosser ou sur...
Pour chercher du travail.
Ok.
Mais enfin, j'avais de la famille qui vivait là-bas. Mm-hmm. Donc, je visitais ma famille, sondais, je faisais des rendez-vous.
Là, t'avais quoi, 22, 23
Dans ces eaux-là.
Ouais.
Ouais.
Ok.
Et je sais plus exactement quel âge j'avais à temps.
Bah, fin d'études, ouais. Après un master, t'as généralement 23 ans, un truc comme ça.
Quelque chose comme ça. Okay. C'était il y a fort longtemps.
Ouais, non, n'importe quoi.
Et ensuite, je suis restée plusieurs années là-bas, et chez Horreur SCG. Et ouais. Ensuite, j'ai fait un passage éclair chez Fred et Farid.
Ok.
Et ensuite...
En quelle année ? Parce que en fait, maintenant, je me demande si on s'est pas connus à l'époque de Fred et Farid.
Tu crois ? Moi, j'étais chez Hello Sunshine, qui était une entité. Et je suis pas restée longtemps. Je suis restée une petite année.
Ah ok.
Quelle année ? 2012, je pense.
Ah ouais, c'est possible qu'on se soit croisés parce que nous, enfin, on est proche de Jalila, que je pense que tu connais.
Mm-hmm. Oui.
Et perso, j'étais assez proche de Fred et Farid. Et c'est vrai que je passais pas mal de temps là-bas ou avec des amis qui travaillaient là-bas. Donc on s'est peut-être croisés là-bas. Hein.
Le monde est si petit.
Grave. Gros, bisous gros bisous à Jalila d'ailleurs.
Gros bisous à Jalila, c'est clair.
Ok, donc tu passes un an chez Fred et Farid, pourquoi ? Pour voir autre chose, envie de changer un petit peu d'environnement, une opportunité
Ouais. Bah déjà, la pub, je suis arrivée par hasard. Mm-hmm. Ça a été une très très bonne expérience parce que c'était des armes. J'ai fait mes armes là-bas. C'était un apprentissage.
En agence, on apprend énormément.
Énormément. C'est un volume de travail insensé. Il y a des gens très 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 talentueux. Mm-hmm. Très volontaire, vraiment, c'est des valeurs de travail qui... On dit souvent des choses, j'entends souvent des gens qui ont un regard plutôt négatif sur monde de la publicité.
C'est vrai.
Mais je partage pas forcément cet avis. En tout cas, j'ai eu de la chance.
Dans tes expériences.
Dans mes expériences. Et les gens que j'ai rencontrés dans ma première expérience professionnelle, c'est des gens que j'ai retrouvés par la suite.
Okay.
Et avec lesquels je partage des valeurs, une vision du travail, une vision aussi de l'entente entre collègues qui est un travail d'équipe, en fait, dans ce passage de ma vie qui était la publicité. Aujourd'hui aussi, tout est une affaire d'équipe.
Ouais, donc tu valorises vachement l'humain dans le travail.
Ouais, et le rôle de chacun, parce que chacun est essentiel. En fait, c'est une chaîne avec des maillons, et s'il y en a un qui casse... Ouais. Et pourtant, c'est des milieux où il y a quand même de l'ego... des enjeux, de la compétition, mais comment dire,
c'est pas un peu le fait que ça soit aussi une galère commune, en fait, quand t'es face à des problématiques d'un client, t'essayes de trouver des solutions sur toute la chaîne, ça lie quand même, non?
Ça lie beaucoup, effectivement. On est en galère ensemble et on profite ensemble, en fait. On se réjouit ensemble, et on a besoin les uns des autres aussi. C'est que personne n'est moins important dans l'équipe, et c'est vrai dans la pub, c'est vrai dans la presse, enfin, tout le monde est aussi important. Donc il y a des gens qui donnent une impulsion ou qui vont canaliser des idées, des énergies, etc. Mais j'ai ce sentiment que c'est vraiment un travail d'équipe, et ma meilleure amie, à qui j'ai beaucoup travaillé, a pour coutume de dire seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, je le vois tous les jours, c'est très important de travailler ensemble et d'être dans un climat de bienveillance, d'apprécier le talent de chacun, de laisser la place à chacun. Donc, voilà.
Ouais, c'est des valeurs qu'on retrouve de plus en plus, ou en tout cas, on met de plus en plus l'accent dessus. Ce qui n'était pas forcément le cas, j'ai l'impression, il y a peut-être une même dizaine d'années, 5-10 ans, tu vois. Mais là, c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus, cette envie de justement travailler dans des environnements où on se sent bien, parce qu'on passe tellement de temps au travail que tu as envie que quand il soit, au moins, ce soit cool, quoi.
Vraiment. Vraiment. Et moi, je ne sais pas comment c'était il y a 15 ans, parce que je démarrais, donc j'avais pas la même lecture des choses. Mais récemment, dans mes dernières expériences, parce qu'après j'ai travaillé pour donc après Fred et Farid, je suis passée en freelance.
Ok.
Donc je suis freelance depuis un moment maintenant.
Toujours en DA.
Toujours en DA.
Ok.
Et
donc là, tu découvres un autre monde, parce que le monde du freelance et le monde du salariat, c'est quand même deux choses complètement différentes.
D'autres enjeux, mais cette liberté que j'ai prise il y a une dizaine d'années, je la chéris chaque jour et ça m'a permis de voyager, de faire ce que j'avais envie de faire à des moments clés de ma vie. Je suis partie.
C'était pour des raisons personnelles ?
Non, enfin oui et non. C'est-à-dire que ça me le fait de devoir prouver à d'autres plutôt qu'à moi-même me posait une sorte de problème. J'avais envie d'être libre de mon temps.
Des projets sur lesquels tu bossais aussi ou pas?
Oui, exactement.
Ça, c'est une question que j'avais. Tu as commencé directement à bosser dans un univers particulier où en agence, tu n'avais pas forcément le choix du client et du coup, tu as développé un portefeuille de clients assez divers.
Exactement. Okay. Je n'avais pas le choix. déjà, je suis arrivée dans une structure institutionnelle.
Ouais, ok.
Donc, c'était des clients comme SNCF, Areva, La Poste, EDF. Ouais. Donc,
pas toujours très glamour.
Pas glamour, mais tellement fondateur. En fait, quand on arrive à être satisfait, à trouver de la satisfaction pour des clients comme ça, après, quand on touche à ce qu'on aime, on s'amuse vraiment.
Ouais.
Mais ce qui a toujours été important pour moi, c'était de trouver du plaisir dans mon travail, quelle que soit la typologie de clients que j'avais. Quand je suis devenue indépendante, j'ai travaillé à Dakar, j'ai vécu plusieurs années à Dakar et j'avais des clients qui étaient des industriels, des fonds d'investissement, donc... Je pense pas que j'aurais pu avoir la même liberté si j'avais pas eu la solidité de l'institutionnel, par exemple.
C'est clair.
Pour pouvoir être plus créatif par la suite. J'ai l'impression d'avoir fait mon job un peu fastueux au départ.
Ouais.
Et, mais d'avoir
super
aussi...
formateur, du coup.
C'est ouais, apprendre les marques, apprendre l'ADN d'une marque, la stratégie derrière une campagne. Enfin, il y a tellement de gens dans la chaîne qui réfléchissent, qui nourrissent des projets, des idées. Ce qu'on voit à la fin, c'est une partie infime. C'est vraiment la pointe de l'iceberg.
Ouais, c'est ça.
Et la réflexion, en fait, chez EuroRSCG, ce qui m'a un peu fascinée, c'était la machine de guerre de la réflexion qu'il y avait derrière la création. Et en fait, j'ai jamais eu une approche uniquement créative de mon travail. J'ai toujours...
Côté stratégique en plus.
Ouais, très important pour moi. Parce que c'est une réalité. En fait,
c'est une réalité.
C'est la réalité et c'est aussi la façon d'angler. C'est la réflexion autour d'un sujet. Et créer des images, c'est l'aboutissement d'une réflexion.
Ouais, souvent, les créatifs, c'est un travail pour les amener à comprendre le côté business et les enjeux au-delà de la créa pure. Ça, pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai challenge.
On me l'a souvent dit.
Est-ce que en passant freelance, du coup, tu as réussi à conserver ce côté un petit peu stratégique ? Parce que j'imagine que versus l'agence où tu es direct peut-être intégré aux salles de brainstorm, de brief, etc., quand tu arrives en freelance, est-ce que tu n'es pas intégré plutôt sur le processus final, du début de la création, mais final de la stratégie où on a déjà un petit peu décidé ce qu'on voulait faire, ce vers quoi on voulait aller ?
Si.
Ça arrive ?
Oui, oui. Et Tout d'abord parce que avant même de produire des visuels ou du contenu, il faut convaincre ses clients, travailler ensemble sur une marque. Et donc ça, évidemment, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, la segmentation de l'agence à un moment donné ne me correspondait plus parce que j'avais envie de plus. Je me sentais un peu bloquée ou pas toujours intéressée à faire que de la créa. J'avais envie de m'intéresser à autre chose.
Okay.
Mais le rythme de l'agence fait que c'est bien rodé. C'est une machine qui...
Bien sûr.
Qui
chacun
roule,
doit
qui
trouver sa place.
Et chacun fait son travail. C'est orchestré et c'est pour ça que ça marche. Mais c'est vrai qu'en étant indépendante, j'arrive à avoir un spectre un peu plus large.
Okay.
Et surtout à ne pas m'ennuyer. Parce que faire que de la création, déjà, ça prend du temps d'être inspiré, d'avoir des idées. Il y a un temps créatif et pour moi, le temps de la réflexion, le temps de la stratégie, le temps de la maturation des idées nourrit la création. C'est un process quoi, comme un autre.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que, j'ai une question peut-être un petit peu polémique, mais est-ce qu'on arrive vraiment à être créatif quand on est en agence ?
Je pense que oui, parce que ça dépend la manière dont on perçoit la création. Pour moi, être créatif... Évidemment, ça va avoir des idées, des bonnes idées, mais un bon créatif, à mes yeux, c'est quelqu'un qui arrive, une fois qu'on lui a dit « ton idée est bien, mais en fait, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas », qui arrive à rebondir et à créer à nouveau, enfin, vraiment le travail
d'agence. Au-delà de la frustration.
T'as mis le doigt exactement là où je voulais en venir, où souvent on a un brief client qui est hyper ambitieux à la base, donc t'as l'impression que t'as un peu toutes les clés en main et que tu peux t'éclater pour qu'au final on te dise... En fait, bon, l'idée de départ, non, c'est pas trop ça, on va rester sur ce qu'on sait faire d'habitude et du coup, tu repars un petit peu sur des choses plus tradies.
Mais en fait...
Mais ta réponse, elle est...
Non, mais tu touches quelque chose de très important par ailleurs dans ma vision des clients. C'est qu'il y a une éducation à faire. Dans le sens, pas du tout dans le sens péjoratif.
Ah, mais t'as tellement, tellement raison. Moi, je sais que c'est des discussions souvent que j'ai. J'ai l'impression des fois... qu'on parle pas aux clients. Moi, mes clients, je leur explique. En fait, tu vois, dans mon taf de directeur de casting, j'essaie de les éduquer pour qu'ils comprennent que des fois, ben, pourquoi ils ne peuvent pas avoir telle fille et pas juste non, tout ça. Mais si tu n'éduques pas tes clients, tu peux pas après les reprocher qu'ils aient une attitude qui ne correspond pas à la réalité. Et ce que tu dis, pour moi, c'est vraiment très, très important.
Bah, d'autant plus que c'est un travail qui se fait sur la durée aussi et que moi j'essaie de toujours garder à l'esprit qu'on n'a pas le même bagage, c'est-à-dire que ce n'est pas leur métier.
Exactement.
Leur expertise n'est pas placée au même niveau que la mienne et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc eux, ils mettent leur expertise au service de la marque et moi, mon expertise, elle est à un autre niveau. Là où c'est un peu tricky, c'est que tout ce qui a trait au visuel, les gens, en général, vu que ça les touche ou ça les touche pas, ils aiment ou ils aiment pas, ils pensent avoir un avis légitime sur les choses. Et c'est là où c'est un petit peu... où ça prend du temps. Déjà, d'injecter certaines références que les gens n'ont pas nécessairement. Ça fait partie de la culture à acquérir et qui est normale pour nous et pas forcément immédiate chez quelqu'un qui n'a pas fait ce genre d'études ou qui n'a pas un attrait particulier pour l'art en général, ce qui est le cas de plein de gens et c'est ok. Et ça prend du temps, en fait, la création. Ça, évidemment, on est en train de faire des séries, des shoots, etc. Donc ça, c'est immédiat. Mais il y a différentes strates et il y a des choses qui se travaillent très en profondeur et il y a des choses qui se travaillent beaucoup plus en surface et de façon immédiate. Donc, il y a plusieurs vitesses et il faut gérer les différentes vitesses.
Ok. Il y a un vrai travail relationnel à faire avec les gens que t'as en face de toi, au final.
Ouais, mais c'est très cool, par ailleurs. Dans le sens où, parfois, ça peut être frustrant. Parfois, on s'arrache les cheveux. Parfois, on ne se comprend pas.
Ouais.
Mais
moi, heureusement que j'ai pas de cheveux parce que je me laisserais arracher plusieurs fois, je te le dis.
C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y en a plus.
Ça doit être ça, ouais.
À force.
C'est des belles victoires que d'arriver à un point de consensus, d'accord, etc. Donc, pour revenir à ta question de la créativité, je pense que c'est une grande force créative que de savoir rebondir.
C'est une belle réponse, ça. Belle, belle réponse. Tu nous disais, t'es partie voyager un petit peu, donc t'es passée par Dakar, c'est ça? T'y restes combien de temps?
4 ans.
Ok, donc là, t'arrives à te refaire un réseau à...
3-4 ans, je sais pas trop.
De quoi? T'as fait à l'espace-temps?
Ouais, l'espace-temps est très... c'est dans ces eaux-là, quoi. Ouais, 3-4 ans.
Ok. Et du coup, je te disais, t'arrives à, quand t'arrives sur place, t'arrives à te refaire un réseau ou t'as un réseau parisien que tu conserves et tu bosses à distance? Comment ça se passe?
Pas du tout parisien.
Okay.
Réseau dakarois.
Ok.
On a travaillé avec des clients historiques de mon mec.
Ok.
Parce que ton mec était dans la pub aussi?
Non. Lui, il a un profil tout à fait différent. Self-made, il sait faire plein de choses.
Trop
il
cool.
Les fait très bien et il fait la com institutionnelle aussi.
Okay.
Mais il écrit, il est très...
C'est un créatif aussi, mais avec ouais. différentes cordes à son arc.
Exactement.
Okay. Trop
et
cool.
Pas avec le même parcours, mais on a travaillé souvent ensemble.
Ok, génial.
Il y a longtemps. On aimait beaucoup ça, à Dakar notamment.
Okay.
Et ça s'est bien passé. Donc, c'était des clients... Lui se chargeait du relationnel, de trouver le développement du business.
Okay.
Et puis ensuite, on travaillait ensemble sur la partie stratégique, encore une fois, et créative. Ça a duré quelques années. Et j'ai eu mes enfants à Dakar.
Ok, génial.
Et puis ensuite...
Des enfants qui sont magnifiques, hein, d'ailleurs. On fait une petite parenthèse.
Merci. Et ensuite, de retour à Paris.
Ok, donc qu'est-ce qui vous ramène à Paris si c'est pas trop perso?
Tu sais, quand t'as des enfants, t'as envie d'être près de tes parents,
la
de tes amis,
et tout. Ouais.
etc.
Bien sûr.
Donc voilà, et puis... J'étais contente de voir autre chose, mais le déracinement, c'est quelque chose, en fait.
Ouais,
c'est quelque
sûr.
Chose qu'il faut vivre pour le comprendre. Mmh. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que j'avais envie d'aller vivre partout ailleurs.
Ouais.
Je suis allée aux États-Unis, et en fait, je suis allée à Dakar et tout. Et en fait, à un moment donné...
T'as besoin de te sentir à la maison.
Ouais. Mmh.
Ouais, non, je comprends.
Donc on est rentré.
Ok. Du coup, tu as eu tes enfants pendant que tu étais à Dakar. Donc, tu avais ce statut de freelance. Est-ce que tu penses quelque part que ça a été plus facile à gérer pour toi, du coup?
Ah oui, mais moi, de toute façon, à partir du moment où j'ai été freelance, j'ai plus jamais considéré le salariat.
Ouais.
Donc, il ne faut jamais dire jamais.
Hein.
Ah. Mais non, mais c'est cette sensation. Enfin, à l'époque, c'était de pouvoir me déplacer comme je voulais, avoir mes horaires, puisque j'ai toujours énormément travaillé.
Ouais.
Sans compter les week-ends, jours fériés. Enfin, je travaillais parce que j'ai toujours aimé travailler aussi.
Mm-hmm.
J'ai cette chance-là d'aimer beaucoup ce que je fais.
C'est clair.
Mais,
et puis quand tu travailles pour toi, tu comptes moins les heures. C'est normal.
Évidemment. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très important de pouvoir être avec mes enfants aussi, être avec eux.
Bien sûr.
D'avoir des vacances sans demander la permission, en fait.
Mm.
En fait, ce truc de demander la permission est très difficile pour moi.
Non, je comprends. Donc, tu reviens à Paris.
Je reviens à Paris.
Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Je reprends contact un peu avec les gens que je connais.
Yes.
Et je travaille pour BETC Luxe pendant un moment.
D'accord.
Sur Givenchy Beauté notamment, Content Factory. Et l'année dernière, on m'a proposé un poste de direction artistique du Marie-Claire.
Ok.
Que j'ai accepté.
Ouais, comment t'as
accueilli? Comment c'est arrivé justement ça?
Écoute, Catel Pouliquin, qui est la directrice des rédactions, cherchait une DA parce que la DA précédente s'en allait.
Ok.
Et j'ai été recommandée à elle.
D'accord, ok, super. Et toi, tu t'avais envie... Est-ce que c'est un truc que t'avais envie de faire, de bosser pour un magazine, de faire plus d'édito? Ou est-ce que ça a été une surprise pour toi?
Bah, un peu en fait, au tout départ, quand j'ai terminé mes études, c'est ce que je voulais faire.
Ouais, c'est ce que tu disais.
C'est ce que je vous disais. Mais je j'étais pas du tout malheureuse dans mon travail, j'étais au contraire très heureuse. Je travaillais encore une fois avec des équipes formidables, tout m'intéressait, je me sentais très chanceuse. Enfin, je ne cherchais rien.
Ouais.
Et c'est venu à
mais
moi.
Mais c'est souvent là quand on cherche rien qu'on nous trouve, hein, bizarrement.
Ouais. Bah en tout cas, c'est une grande chance. Je me sens très privilégiée, quoi, d'avoir eu cette opportunité. Mmh. Et ça tombait à un moment. En plus, j'étais malade du Covid. Enfin, c'était un moment où j'étais pas du tout dans une énergie
réceptive.
Ouais, dans une énergie de combative.
Ouais.
Et donc en fait, après, de prime abord, ça me Marie-Claire, j'étais pas forcément une lectrice assidue et tout, mais le projet de Catel m'a énormément séduite parce que c'était un projet de fond de refonte globale du titre.
Ouais.
Et elle partageait une vision de la société qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup parlé.
Ok.
Et
tu dirais une vision de la société, de comment elle allait parler de cette société au sein du magazine ou d'humain à humain, je veux dire.
Les deux, je pense. C'est-à-dire que sa vision pour le magazine m'a séduite parce que ça n'était pas, pour être tout à fait honnête, moi les féminins, ça n'a jamais été franchement.
Très calme.
Non, mais moi j'adore.
Ça peut aller dans le cliché rapidement, malheureusement.
Oui, et puis la relation aux femmes, qui est quelque chose qui est très en lien pour moi avec mon parcours professionnel, puisque j'ai découvert des femmes absolument merveilleuses qui ont cru en moi, qui ont cru en d'autres femmes, qui ont une bienveillance extrême.
Mmh.
Et. Du coup, mon regard sur un féminin devait être forcément un propos très très bienveillant et pas un propos culpabilisateur, genre on perd les kilos avant l'été, enfin ce genre de truc qui, moi perso,
l'enfer.
Voilà. Et c'est très loin de la vision de Catel d'envisager ces articles. D'ailleurs, on a reçu un label récemment qui s'appelle PIG. Qui est un label de presse d'intérêt général.
Génial.
Donc c'est pour dire aussi que les articles ont vraiment un fond
ouais.
Et que c'est très éditorialement c'est assez soutenu, quoi.
Ouais.
Donc
de l'extérieur, enfin je pense que les gens qui écouteront et qui suivent un petit peu l'actualité, on a vu un vrai shift s'opérer. Vous avez fait un travail de dingue sur le mag.
Merci.
Sur une presse féminine française qui avait tendance à être peut-être un peu vieillissante.
Mm-hmm.
Enfin, on connaît tous un petit peu les enjeux de la presse écrite et de la presse la presse spécialisée, peut-être un tout petit peu moins que la presse généraliste, mais en tout cas il y a un vrai déclin au profit du digital.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est nécessaire un petit peu pour toutes les publications de se remettre en question et d'injecter beaucoup plus de modernité, d'avoir des discours qui sont plus en phase avec avec les enjeux actuels. Ma phrase est sans fin.
Elle est parfaite. Elle est parfaite. Le fond est intéressant, donc on suit.
Ouais. Mais mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est bravo pour le travail. Et puis vraiment, on invite tout le monde à aller regarder un petit peu ce que tu fais pour le mag. C'est super cool.
Merci beaucoup. Ça me touche.
Donc là, tu débarques, on te donne une feuille de route en tant que DA ou c'est comment ça se passe le début de cette aventure?
Le début de cette aventure s'est passé sur le projet de Catel sur un papier, un mail qui résume son projet et qui, moi, me parle. Et en gros, je vais le résumer très rapidement. C'est s'intéresser à la société telle qu'elle est aujourd'hui, de façon beaucoup plus moderne, contemporaine. Et au cœur de ça, puisqu'on est quand même un féminin, c'est... quelle incarnation pour les femmes d'aujourd'hui, comment on les incarne, comment on les représente. Et alors, le sujet de la représentativité est quand même crucial parce que tout le monde n'est pas au même niveau en termes
de représentation, ça
de
c'est
représentation,
clair.
Ouais, c'est un sujet assez sensible et en même temps qui doit se normaliser. Et j'ai senti que Catel, enfin bon, Catel m'a demandé quelles étaient mes sensibilités, donc on a échangé un petit peu, et on avait des goûts très communs, très proches, et j'ai l'impression qu'on s'est comprises. Et j'ai senti aussi que j'allais pouvoir avoir une certaine liberté, puisque elle-même est une personne assez libre, quand même, dans son appréhension des choses, et c'est très agréable de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Et c'est aussi une grande chance, parce que ça, c'est la réalité du business, qu'on soit dans la pub ou dans une rédaction.
T'as une empreinte sur la société, en vrai. Enfin, le travail que tu produis est exposé à des milliers et des milliers de gens, donc t'as une responsabilité quelque part un petit peu sociétale.
Exactement. Wow. Mais c'est la chance de pouvoir le faire dans ces conditions-là, parce que quand on a une direction qui n'accompagne pas le changement ou la volonté de changement ou qui n'est pas en confiance, c'est très très dur de participer à une refonte. Ouais. Il faut, encore une fois, être en équipe. C'est-à-dire que si on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, ça ne peut pas arriver soit aussi bien, soit aussi rapidement.
Non, c'est
donc,
clair.
Encore une fois, c'est la synergie des forces de chacun qui sont mises à contribution d'un but commun. Et le changement chez Marie-Claire, il s'est opéré à la fois sur le fond, sur la partie éditoriale, dans la vision transversale de Catel pour le titre, et aussi par la direction artistique avec une refonte de la maquette d'abord, puis une réflexion sur les nouvelles incarnations qu'il fallait déployer pour être plus juste avec la société. Et cette empreinte sociétale dont tu parles, elle est importante parce que tu vois, moi souvent j'essaie de faire des choses qui me semblent correctes à montrer à mes enfants.
T'as envie que n'importe quelle femme le voit et se sente pas complexée, mal.
Exactement. C'est-à-dire que ce soit très inclusif, mais pas dans le côté. C'est très usité en ce moment, ce terme.
C'est ce que j'allais dire. C'est difficile d'avoir une démarche qui est sincère sans passer pour quelqu'un ou en tout cas une entité qui se rapproprie des sujets pour en être et pour faire, tu vois.
Donc il faut mesure garder, être très humble et en même temps avoir des convictions et des valeurs et s'y tenir.
Ouais.
Et c'est important, on avance doucement.
ouais, non, c'est clair, c'est bien.
Justement, en termes de timing, parce que un groupe de presse ou je veux dire un titre de presse, c'est comme un paquebot, tu le manœuvres pas comme ça. C'est quoi le timing quand tu commences cette aventure où tu dis ok, voilà, entre le moment où j'arrive, la stratégie qu'on met en place et les différentes étapes par lesquelles on va devoir passer pour repositionner le titre, c'est quoi en termes de calendrier dans votre tête, le temps de mettre tout ça en pratique?
D'abord, on a travaillé à la refonte de la maquette, qui était le plus important car le plus visible, et ça allait être c'était une structure dont on avait besoin pour continuer à déployer le changement, un socle en quelque sorte. Et ensuite, on ne s'est pas fixé de timing parce que on sait que gagner la confiance de nouveaux talents, trouver de nouveaux interlocuteurs ou de nouvelles personnes avec lesquelles collaborer, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ce qui est difficile, c'est de faire ses preuves pour convaincre des gens en n'ayant pas grand-chose sous la main. Donc ça veut dire qu'au départ, on travaille avec des gens de confiance, des talents... Je pense à Mélissa De Arrojo, qui est la première personne avec laquelle j'ai collaboré pour Marie-Claire, qui était ma première nouvelle signature. Et là, j'ai fait le point il y a peu de temps et on a travaillé avec une quinzaine de nouveaux photographes, de nouvelles écritures, tous dans la trentaine et tous avec des univers assez différents. Donc j'étais assez fière parce qu'en fait, souvent, on a la tête dans le guidon et on se rend pas compte des accomplissements. Mmh. Et en fait, en regardant en arrière, en me disant, ok, donc ça fait même pas un an, j'ai pas fait 12 numéros et on a quand même réussi être accompagné de talents super créatifs, vraiment frais.
Après, pour faire partie, disclaimer, pour faire partie de cette aventure au casting, je sais que quand tu m'as appelé pour savoir si ça m'intéressait de taffer sur ce projet, tu vends très très bien la chose. On sent, tu veux que je te dise,
on sent les années d'agence.
Sincère. Ouais, et on sent aussi les années d'agence. Quand ça pitch, ça pitch.
Mais nous, on s'est rencontrés en agence avec Nico.
Ouais.
On a travaillé ensemble sur Givenchy. Et en fait, bien s'entourer, c'est important. C'est-à-dire que, évidemment, la personne avec laquelle on travaillait avant était très bien. Mais ce que j'avais en tête pour le Marie-Claire, je sais que Nico, il le comprenait à 1000%, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble et que j'avais vu sa sensibilité, sa vision et tout. Et j'étais tellement à l'aise. Et en fait, parfois, on a besoin d'alliés comme
bien
ça.
Bien sûr, c'est ça.
Qui sont des gens avec qui on a à peine besoin de parler parce qu'on sait qu'on va dans la même direction. Mmh. Et ça, c'est ce que j'essaye de trouver aussi avec les nouvelles signatures, avec les nouveaux talents. Donc là, j'ai travaillé avec plein de nouvelles personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment cool.
Trop bien.
J'ai rencontré des hair and make-up, des gens qui font la lumière, notre production. Enfin... C'est vraiment une équipe du love.
Trop cool.
Et c'est très cool.
Bah ouais, tu m'étonnes.
Bah pour l'instant, c'est que du positif tout ça pour toi. C'est cool.
Ouais. Après, c'est pas facile forcément tous les jours, mais c'est vrai
Ah oui, parce que si on donne les détails de nos derniers shoots à l'étranger et les sueurs froides, si on donne l'envers du décor...
Mais tu sais, c'est qu'on doit aimer ça, hein. C'est une sorte d'adrénaline,
c'est
mais c'est, en fait, tout change tous les jours. C'est un peu un grand 8, un roller coaster.
Ouais, ouais, c'est ça, les montagnes russes.
Voilà, les montagnes russes. Et en même temps, quand on est dedans, on est saoulé, on se dit, non mais... Ça n'arrête jamais, ça peut jamais être
pourquoi
en fleuve tranquille.
Ça
mais pourquoi? Et après, tu vois, tu prends un coup de recul et tu te dis, ok, en fait là, le job c'est de faire des images, donc on va se détendre.
Ouais, c'est hyper important de prendre ce recul.
C'est super important et surtout, on a beaucoup de chance. C'est-à-dire que...
Ouais, la pénibilité dans le travail, on connaît assez peu, hein, en vérité.
Tu vois, c'est une chance incroyable. En fait, notre métier, c'est de fabriquer des belles images. Donc,
non, c'est clair.
Et si je peux, c'est un spoiler, je vais essayer d'en dire le moins possible, mais c'est vrai qu'hier, par inadvertance, tu m'as envoyé un mail d'une cover sur laquelle on a bossé le mois dernier. Mm-hmm. J'étais pas censé la voir, mais je l'ai vue. Mais c'est vrai que ça a été difficile de booker ce qu'on a booké, de shooter cette cover, mais quand tu reçois ne serait-ce que la maquette, hier, moi, j'étais aux anges. Je me suis dit, bon, ok, ça va faire un vrai changement. Ça va être quelque chose de fort. C'est vrai que ça a été dans la douleur, mais en fait, t'oublies cette douleur du booking quand tu vois le résultat final.
Exactement.
Ouais, la fierté dans la production d'un objet qui va servir, quoi.
Merci de ton comment en live, parce que tu m'as pas envoyé un message pour me dire c'est très
ben
beau.
Non,
c'est...
mais j'étais pas censé être dans la loupe. Je voulais pas.
Il est resté discret.
Non, ça fait plaisir. Je l'adore, cette série.
Bon, on a hâte de voir ça, en tout cas. Trop cool.
Mais non, mais c'est exactement ça. On oublie toutes les souffrances. Quand on voit le résultat, on est là genre, ok, c'est cool. Mais j'ai mis 2 semaines à me remettre de ce voyage.
C'est comme, c'est comme un accouchement, quoi. T'oublies la douleur après, quoi. Non, tu l'oublies pas. Bon, on comprend ça. qu'est-ce qu'on voulait se dire d'autre?
Moi, j'aimerais bien parler... De quelque chose qui est un peu plus de la sphère privée. Toi, en tant que femme et avec ce travail, comment t'organises un petit peu la balance entre ta vie privée et ton travail? Comment tu t'as trouvé cet équilibre sur lequel tu es aujourd'hui?
C'est une bonne question parce que c'est pas évident. C'est quelque chose qui m'a beaucoup angoissée de réussir à faire la balance et surtout à pas faire la balance que entre des tâches, c'est-à-dire l'intendance d'une famille et les obligations professionnelles, mais aussi créer des moments de vie avec mes enfants, avec mes amis, mes sœurs, ma famille. C'est pour moi primordial parce qu'en fait, on travaille pour ça. Le but de la vie, c'est de kiffer.
Grave.
Et c'est de rêver sa vie. Donc, la balance, c'est déjà d'être heureux dans ce qu'on fait. Mmh. C'est facile à dire, mais c'est pas si simple à faire. Mmh. C'est de malgré l'adversité ou les moments qui peuvent être un peu compliqués, essayer de prendre ce recul, de bien s'entourer, très important. Et mon statut d'indépendante me permet quand même de donner mes conditions. C'est un package, en fait. Je viens comme ça. C'est-à-dire, il y a ce facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a des moments où il faut que je fasse les sorties de classe, et ça veut pas dire qu'une fois que les enfants sont couchés, je vais pas travailler jusqu'à 22h.
Ouais, bien sûr.
C'est juste une façon d'arranger, de tricoter ma vie comme je le peux.
Est-ce que le Covid et l'organisation, justement, beaucoup plus en télétravail, ça a été un truc positif pour toi ou pour les gens de ton entourage qui sont aussi, que tu connais, qui sont aussi en freelance, ou ça a été ça n'a pas fait vraiment de changement?
Moi, ça a sauvé ma vie.
Ah, carrément.
Ah non, mais vraiment, alors déjà, dans un premier temps, blague à part, c'est pas très drôle, mais voilà, j'ai été malade d'abord, donc au début, j'ai pas percuté de tout ce changement de travail et tout, parce que j'étais vraiment au fond du trou.
Ouais.
Et en fait, après, moi, les confinements et tout, je les ai vécus comme un soulagement, bon, quand les écoles étaient ouvertes, hein, pas quand les écoles étaient fermées, mais un soulagement parce que j'avais pas 2h30 de transport, voire 3h de transport à faire, à perdre, de fatigue du transport. Et franchement, peut-être dans certains milieux, c'est difficile à comprendre, mais moi, je travaille tellement vite et beaucoup chez moi. Je suis un peu une machine de guerre, ça veut dire que je mets mes enfants à l'école à 8h30 et jusqu'à 17h, je ne vois pas le temps passer.
Tu bosses.
Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Après, j'essaye de faire un break de 2h, mais j'y arrive très rarement. Donc, heureusement, j'ai de l'aide.
Ouais.
Et voilà, et après, à chaque fois que je prévois des vacances, je ne pars pas en vacances.
Non.
Si, si. Non, non, mais il y a aussi un revers.
Je peux raconter une petite histoire ou pas?
Bah, vas-y.
C'est bon, monsieur anecdote, Nico.
Non, vas-y, je suis monsieur anecdote. Non, mais en fait, il y a quelques semaines, on discute de plusieurs shoots qui doivent s'enchaîner justement à l'étranger. Et elle me dit, j'aimerais bien qu'on les book avant parce que là, j'ai vraiment une semaine off, j'aimerais bien en profiter. Et puis, c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de choses, pas mal de mouvements. Et je lui dis, mais t'es sûr que tu vas réussir à prendre des jours? Elle me dit, oui, oui, je pense qu'on s'est jamais eu et qu'on n'a jamais autant échangé que pendant ta semaine de vacances, je me trompe.
Non, mais tu te trompes pas du tout. Et c'est ce qui arrive à chaque semaine de vacances.
Ah ouais, mais comment tu fais du coup? Comment tu gères ça?
Je suis très fatiguée.
Ouais.
Ouais, je suis très fatiguée. De toute façon, avec des enfants en bas âge, un poste comme ça, je sais très bien. Encore une fois, j'adore ce que je fais, donc ça ne me pose pas de problème. Ouais, mais c'est vrai que les moments de repos
sont rares
et pourtant très nécessaires. Donc là, j'essaye de sécuriser. Pareil, en décembre, j'ai posé une semaine pour le mois de juin.
Ouais, ok, dans l'anticipation là.
Ah ben...
Obligé.
Et hier, j'avais encore une cover potentielle qui voulait coller dans mes vacances. Et j'ai dit non. En fait, là, je suis en vacances et j'ai pas l'impression... En fait, si je protège pas moi-même mon temps...
Personne va le faire pour toi.
Non. Et en même temps, à un moment donné, quand on est censé shooter 4 jours plus tard, je suis obligée d'être dans mes mails, d'échanger avec tout le monde, de... C'est comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est le côté qui est un peu plus...
Relou. Comment ton mec étant un peu dans le même univers que toi, vous arrivez à vous comprendre? C'est un truc qui facilite du coup?
Ah ouais. Vraiment, d'avoir... Déjà, lui aussi, c'est un gros bosseur. Parce qu'en fait, je trouve ça cool de... Enfin, moi, personnellement, ça me convient d'être avec quelqu'un aussi qui soit indépendant, qui comprenne que parfois je suis dans un tunnel et que it's okay. Et il faut me laisser dans le tunnel et il faut que je fasse les choses et que ça me prend beaucoup de temps et que je vais travailler le week-end ou que je vais travailler le soir, que je ferme pas mon ordi à 19h. Que je reçois des appels, etc. Mais lui, il est comme ça aussi.
Donc vous trouvez...
Voilà. Lui aussi, il travaille tout le temps. Donc, c'est même pas une question qui se pose, mais j'avoue que si j'avais été avec quelqu'un de beaucoup plus 9 to 5, ça aurait été un enfer, parce que se justifier de devoir travailler, c'est pas possible, en fait. C'est pas... C'est pareil, la liberté. D'être ce qu'on doit être, de... vivre sa vie comme on la rêve, etc. Ça... Être bien entouré, c'est quand même clé.
Ouais, mais on dirait que tu excelles en la matière, que t'as très bien entouré. Non, mais c'est des bonnes questions, ça. Et je pense que c'est... Enfin, merci d'avoir un témoignage qui est aussi franc, aussi sincère, de dire, bah, simplement, bah, comment je fais ? Bah, je suis fatiguée.
Bah ouais.
C'est des témoignages qu'on n'entend peut-être pas suffisamment.
Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment les discours des influenceurs YouTube, coach de vie, c'est tout va bien, tout est facile, il y a qu'à travailler. Les gens communiquent tellement peu sur le côté difficile de, enfin l'envers du décor de la vie d'indépendant, quoi.
Non, c'est sûr que c'est pas évident. Après, moi j'ai un espèce de schéma dans la tête d'un triangle, et en fait avec les trois sommets. J'ai un sommet avec le travail, un sommet avec mes enfants, et un sommet avec moi-même. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est de ne pas s'oublier en route.
Hyper dur.
Je suis une mère, mais je suis quand même une femme. Et en fait, j'ai l'impression que tu ne peux allier que deux de ces sommets. Tu choisis, en fait, c'est tournant, donc ce n'est pas toujours la même chose.
Mais
donc le travail, c'est quand même un impondérable, hein, t'es quand même obligé. Et la balance entre ce que tu donnes à ta famille et ce que tu gardes pour toi quand ils sont un peu plus grands, parce que quand ils étaient très petits, carrément j'ai fait une croix sur moi-même.
Mais,
mais si. Mais, et petit à petit, c'est la balance entre retrouver des moments pour soi, partir seul avec ses amis, sans ses enfants, et en même temps donner tout le temps qu'on peut au quotidien à ses enfants, sans négliger son travail, etc., etc., etc. Oui, c'est une balance compliquée. Après, il y a des moments où on vit les choses beaucoup plus sereinement, et il y a des moments où c'est un maelstrom, on est pris dans une espèce de tourbillon, et on touche pas terre, et ça passe.
Ouais, c'est des phases.
C'est des phases, exactement. Et c'est pour ça, encore une fois, que travailler dans un univers sain de travail... avec des gens bienveillants, etc., ça aide à avancer et à pas se décourager parfois.
Ouais. Aujourd'hui, j'imagine que le travail avec le magazine, ça représente 100% de ton activité.
Pour l'instant, oui. Le changement...
Il y a du travail à t'entendre. De toute façon, il n'y a pas vraiment de place pour un autre projet.
Non.
Ok. Tu parlais d'incarnation tout à l'heure quand tu parlais du magazine. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi la vision que tu as des femmes. J'allais dire, c'est quoi la femme, mais il n'y a pas une femme, en fait.
Exactement. Tu as mis le doigt dessus. La femme, c'est la femme qui nous inspire pour tel vêtement, telle série. Je pense que, en fait, c'est très important d'avoir une main tendue intergénérationnelle. Comme tu le disais tout à l'heure, c'était une presse un peu vieillissante, ou peut-être que le cœur de cible était vers la cinquantaine, etc. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait une passerelle entre les générations, et que, en gros, une mère et une fille se parlent et des références communes ne soient pas en disruption totale culturellement. C'est-à-dire que les points d'attache dans la culture de tous les jours, ce qu'aime la mère et ce qu'aime la fille ou la grand-mère et la petite fille, il y a forcément des endroits où on se retrouve.
Yes.
Et c'est très... En fait, le Marie-Claire, la façon dont on le conçoit ou la façon dont Katel me l'a raconté au départ, ça m'a vraiment inspiré un book table. C'est-à-dire un livre qui est posé dans la maison et que tout le monde peut feuilleter, même les garçons.
Ouais, très important ça.
Très important parce que tous les sujets sont sont fouillés, intéressants. C'est pas une presse qui coupe les gens entre eux ou les genres entre eux.
Ouais, qui coupe ou qui incrimine même, parce qu'on avait tendance à voir parfois même des choses un peu incriminantes, quoi, envers un sexe ou l'autre, un peu culpabilisantes, comme tu disais tout à l'heure.
Donc voilà, et c'est cette incarnation, pour moi, elle doit être faite à travers des femmes jeunes, des femmes moins jeunes, des femmes d'origines diverses, au parcours divers. Et tous les récits sont importants, intéressants. Et en fait, ce qui est très important pour moi dans la façon d'incarner, de façon, on va dire, plus concrète, casting-wise, par exemple, c'est d'avoir des filles différentes, mais pas pour cocher des cases. Pour avoir travaillé parfois avec certains clients en publicité où la diversité, ça s'incarne en cochant des cases quand même. Il faut avoir...
Ouais, c'est Benetton bis. Hein.
Un de chaque, quoi. C'est un peu hard de le dire comme ça, mais ça existe quand même. Et en fait, non. En fait, on peut très bien avoir plein d'incarnations différentes. Et c'est ce qu'on souhaite faire. Après... je crois aussi que c'est quelque chose de fluide qui évolue. Et puis surtout, c'est nourri de ce qui nous inspire au quotidien. La culture populaire, pour moi, c'est un truc très positif. C'est-à-dire que c'est une culture ouverte, quelque chose
de... Je suis 100% d'accord. Le côté élitiste et de rejet du populaire, moi, c'est quelque chose vraiment qui me donne envie de gerber, honnêtement.
Ouais, mais surtout, ça, en fait, c'est... Tout le monde aime Rihanna.
Ouais.
Enfin...
Bien sûr, tout le monde aime
Rihanna.
Tu vois ?
C'est clair.
Moi, j'ai aucun problème à faire des grands écarts entre Beethoven et Booba. C'est mon quotidien. J'aime... En fait, j'aime... Il y a trop de trucs qui sont cool. Se réduire à catégoriser, à se limiter, c'est pas du tout un enrichissement, c'est tout à fait l'inverse.
C'est clair.
Et dans l'incarnation, ça doit être la même chose. Donc, il y a des filles rondes, il y a des filles fines, il y a des filles avec des cheveux bouclés, raides, rousses, des taches de rousseur, des dents du bonheur, des filles noires, différentes carnations, différentes... voilà, des filles de partout. Enfin, c'est ce qu'on souhaite faire.
Ouais.
Après, il y a aussi des histoires qu'on injecte dans des story mode. C'est-à-dire que, bah, par exemple, c'est pas toujours simple de faire accepter le poids de certaines personnes par rapport au bureau de presse qui prête que des tailles 36. Donc, comment on fait pour faire des séries comme ci? Après, il y a des problématiques qui sont... indépendante d'une volonté qui peut être réelle. Donc c'est des choses à prendre en considération, mais je pense que si on essaye de trouver des solutions, on finit par faire avancer les choses petit à petit.
C'est ça, on va dans le bon sens au moins.
Donc ouais, l'incarnation assez ouverte et jamais culpabilisante.
Ouais.
L'idée, c'est que les femmes se sentent toujours comprises et représentées. Et par exemple, c'est important pour moi que ma fille, un jour, regarde un magazine et trouve quelqu'un qui lui ressemble aussi.
Ouais.
C'est très important de se voir représenté à certains endroits.
Très important, ouais, c'est vrai. On n'a pas forcément, nous-mêmes, grandi avec ça. En tout cas, moi, je sais que j'ai assez peu, trop peu, en tout cas, vu des personnes qui me ressemblent dans la mode, dans le cinéma, dans la culture française, quoi. Malheureusement. Mais c'est des choses qui évoluent et on est hyper contents. De le voir se produire et deux, d'y participer à notre petite échelle, c'est cool. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu
nous
voir.
Merci beaucoup,
c'était trop cool.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci, ciao.
Bien.
Ciao.